Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Gabriel Fortin a été renvoyé devant la cour d'assises pour 3 assassinats et une tentative d'assassinat. Son procès se déroulera à partir du 13 juin 2023. Tant qu'il n'a pas été jugé, il est présumé innocent.
J'étais dans son petit bouquin qu'il avait noté tout un tas de choses que je lui avais dites à l'époque. Il notait quand on avait des réunions, ce que je lui disais qui ne lui plaisait pas, qu'il avait après suivi tout mon parcours professionnel et que tout ça s'était noté dans son bouquin. Ça, je trouve ça vraiment délirant. Parce que, un, il s'est fait licencier pour une bonne raison, mais qui n'avait rien d'extraordinaire. Deux, il ne s'est pas fait licencier comme un malpropre. Et puis, trois, vu la relation professionnelle qu'on a pu avoir, qui était tout à fait banale, de voir que je faisais partie de ses obsessions comme ça, c'est un peu effrayant.
Plus de 2 ans après, il reste de nombreuses zones d'ombre sur le périple meurtrier de Gabriel Fortin. 3 jours s'écoulent entre le moment où il récupère sa voiture de location, le 25 janvier, et le moment de son arrestation, le 28 janvier 2021. Plus de 1500 km au compteur, alors que le trajet direct entre l'Alsace et la Drôme fait moins de 600 km. Le 25, il prend la route. Le 26, il vise ses 2 premières victimes, Estelle Luce et Bertrand Méchel. Le 28, il s'en prend à Patricia Pasquion et Géraldine Caclin. Mais qu'est-ce qu'a fait Gabriel Fortin le 27 janvier ? Avait-il prévu de cibler d'autres personnes ? Je suis Marion Dubreuil et vous écoutez le dernier épisode de Tueurs de DRH.
Les enquêteurs privilégient ce soir la piste de la vengeance.
La préméditation de celui qu'on surnomme le tueur de DRH.
La justice m'a laissé seul avec une meute de loups.
Leur point commun, une activité dans le monde du travail. Ressources humaines ou aide aux chômeurs.
Ils me prennent pour des cons.
Pour le coup, il a bien pensé les choses.
Perte de chance.
C'était clairement un tir pour tuer.
Carrière détruite.
Une expertise balistique est en cours pour confirmer ou non le lien avec les faits commis en Alsace par celui qu'on surnomme aujourd'hui le tueur de DRH.
Épisode 6. Les autres.
Gabriel Fortin avait-il d'autres cibles ? La question se pose très sérieusement, notamment quand on regarde l'itinéraire qu'il a emprunté cette fameuse nuit du 26 au 27 janvier 2021. Un paiement en carte bleue dans une station Total permet de savoir qu'il est passé au port Marly, dans les Yvelines, à 4h21 du matin, le 27 janvier. C'est un sacré détour sur la route de la Drôme, où on le retrouve le 28. C'est loin de Valence, mais c'est pas loin de la banlieue parisienne, et par exemple de Nanterre, là où vivait jusque très récemment l'ancienne petite amie de Gabriel Fortin, celle qu'il avait connue au lycée, et qu'il a tenté de revoir après plus de 15 ans. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent.
Donc cette jeune femme a été effectivement, peut-être, un espoir de normalité pour lui, avec finalement la déception, et la déception, le sentiment d'humiliation, on le retrouve dans ses écrits.
Depuis plusieurs années, Gabriel Fortin la suivait à la trace. Un document Word intitulé « Nanterre » indique plusieurs déplacements à son domicile, notamment fin 2019. Il savait qu'elle habitait au rez-de-chaussée, connaissait même la disposition des pièces et les habitudes de la famille en fonction des horaires. Un autre document, retrouvé par les enquêteurs, détaille un trajet en voiture, toujours entre Nanterre et Rambouillet, par la Nationale 10. C'est pas loin cette fois-ci du cabinet d'un des 2 avocats que Gabriel Fortin avait mandaté au prud'homme après son premier licenciement de Francel Emerson. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cet avocat, une avocate en l'occurrence, avait depuis changé d'adresse. Son ancien cabinet était devenu un cabinet médical. Ça lui a peut-être sauvé la vie. Quant au deuxième avocat, il est toujours installé à Chartres, à la même adresse. Fortin a même fait des recherches sur les commissariats et les gendarmeries les plus proches de son cabinet, comme s'il cherchait à déterminer un délai d'intervention. Dans l'agenda que les policiers ont retrouvé dans la voiture de location, Gabriel Fortin fait mention d'un appel qu'il a passé à son cabinet.
Bonjour, je vous appelle car je devais apporter des documents à maître. Pouvez-vous me dire ses disponibilités la semaine prochaine ou celle d'après ?
Cabinet d'avocat, bonjour.
Bonjour, Marion Dubreuil, je suis journaliste judiciaire. Je cherche à joindre maître le s'il vous plaît.
C'est pour un dossier en particulier ?
Oui, c'est pour un vieux dossier qu'il avait au Prud'homme il y a quelques années.
Alors, il faut m'en dire plus parce que je ne suis pas certaine qu'il va prendre l'appel.
D'accord, bien sûr. C'est au sujet du dossier Gabriel Fortin.
Oui, ça me dit que... Oui, je vois. On avait déjà eu effectivement, je crois, la gendarmerie ou la police au téléphone par rapport à ce dossier.
D'accord.
Mais alors, je vous avouerai que... Enfin, c'est ce que maître avait dit aux personnes qu'on avait eues au téléphone, c'est que c'est un dossier qui remonte il y a des années,
ouais.
Mais même plusieurs années. Maître ne s'en souvient quasiment pas et on n'a même plus le dossier dans nos archives.
D'accord.
Voilà, donc maître ne pourra pas spécialement vous donner d'informations par rapport à ce monsieur Fortin.
Est-ce qu'il serait possible juste d'échanger avec lui?
Je vais voir avec lui, hein. Quittez pas, mais je vous promets rien.
Merci beaucoup, merci.
Alors, comme je le présageais, maître ne prendra pas l'appel. Hein. Comme il est en train de me dire, alors déjà d'une, il ne se souvient absolument pas de ce dossier qui date, comme je vous le disais, depuis oui. des années. Oui. Et de plus, il est soumis au secret professionnel. Donc... Il ne pourra absolument rien vous dire par rapport à ce monsieur Fortin dont il ne se souvient absolument plus. Et le problème, c'est qu'on n'en sait pas plus dans cette affaire.
Oui.
Je vous avouerai, maître ne sait strictement rien par rapport à cette affaire-là, en fait.
Toujours est-il qu'il semble que Gabriel Fortin en ait nourri une rancœur.
Ah d'accord, ok.
Voilà.
Très bien, très bien. Ok. Bon,
et bah, c'est aussi sur cet aspect-là que j'aurais aimé échanger avec maître. Ouais. Voilà.
Bah, écoutez, je vais prendre votre nom et vos coordonnées. Mais après, voilà, je ne vous garantis rien. D'accord ?
Alors, Marion Dubreuil.
Marion Dubreuil.
Au final, il ne m'a jamais rappelé. Tout comme l'autre avocate, spécialiste des prud'hommes. L'ex-petite amie de lycée, qui m'a répondu par message qu'elle ne souhaite pas communiquer sur cette affaire.
Bonjour. Vous êtes sur la messagerie.
Et la liste est longue.
Bonjour, vous êtes bien sur le téléphone là.
Veuillez laisser votre message.
Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Veuillez laisser un message après le signalement.
En fouillant dans son ordinateur, les enquêteurs ont trouvé des centaines de fichiers. Une constellation de notes précises. Fouillées sur les adresses, l'environnement, les proches de toutes ces personnes qui ont un jour croisé sa route et l'ont rejeté.
Cette personne est, entre guillemets, hein, inactive pendant 10 ans, en tout cas au plan professionnel, mais on voit qu'il y a une forme de rumination qui s'alimente progressivement, et c'est ce qui rend ce dossier intéressant, effectivement, c'est qu'on est sur quelque chose, quasiment 11 ans d'écart entre le licenciement, le dernier licenciement, et le passage à l'acte. Cette idée a germé, a été enrichie, a été alimentée par tout un tas de volontés, de revanche, sentiment de préjudice qu'il ressentait, d'humiliation. Et potentiellement, c'est la question que je me pose, pourquoi ce jour-là ? Pourquoi le 26 et 28 janvier 2021, M. Fortin décide de passer à l'acte, alors que ça fait 10 ans, 8 ans, 5 ans, 2 ans, qu'il a les informations, les éléments, et qu'il n'a rien fait jusque-là.
L'expert psy Nicolas Estano pose une bonne question. Les premiers repérages de Gabriel Fortin sur ses futures scènes de crime remontent en fait à 2019. Ce que l'on sait, en suivant ses mouvements depuis, c'est que les derniers datent d'octobre 2020. Mais est-ce qu'il s'agissait encore de simples repérages ? Gabriel Fortin est dans la Drôme le 14 octobre 2020, là où il finira son road trip meurtrier en 2021. Le 14 octobre 2020, c'est aussi le jour où Emmanuel Macron annonce le couvre-feu. Et ce couvre-feu, il va durer jusqu'au 20 janvier 2021.
Bonjour à tous, c'est l'annonce choc du chef de l'État. Un couvre-feu pour l'Île-de-France et 8 autres métropoles.
Pendant cette période, l'ingénieur au chômage n'aurait pas pu se déplacer librement. C'est ce qui me paraît le plus évident pour expliquer les dates de son passage à l'acte. Avec autant de préparation, ce qui ressemble à une liste de cibles, et 4 victimes, dont 3 décédées, je commence à me dire que ce tueur de DRH a tout du tueur en série.
Le tueur en série va être une personne ou plusieurs personnes, plusieurs auteurs, qui vont tuer plusieurs victimes, mais sur une durée assez longue, avec une période d'accalmie. Plusieurs lieux également, et globalement, pas de lien direct avec l'auteur et la victime. C'est-à-dire que la personne ne va pas forcément avoir une symbolique particulière. Ça va être un support à fantasme. Mais là, on serait plus peut-être sur du spree killing, c'est-à-dire un auteur qui va tuer au moins 2 personnes, forcément, avec une absence de période d'accalmie. C'est-à-dire que les faits sont très proches au niveau chronologique. Donc, on a une unité de temps qui est limitée parfois à une journée, 2 jours, des lieux différents, parce que donc, la notion de spree, c'est de la notion de mouvement qui est présente, et plusieurs victimes. Pour le coup, il a bien pensé les choses. Ce n'est pas un passage à l'acte spontané, comme on peut avoir parfois. Il n'y a aucune spontanéité dans son acte. On a au contraire quelqu'un qui a réfléchi, qui a laissé mûrir un projet de vengeance d'abord, et peut-être de restauration de son identité. Quelqu'un qui veut prouver qu'il a bien été victime de quelque chose. Et ça a pris 10 ans.
Lorsque Gabriel Fortin entre dans Faune Environnement, la dernière scène de crime, le 28 janvier, il demande où se trouve l'ancien responsable du bureau d'études qui travaille désormais sur un autre site. Là encore, Gabriel Fortin ne sait pas que son ancien N+1 ne travaille plus au siège. Je commence à me dire que beaucoup de personnes ont peut-être eu la vie sauve seulement parce qu'elles avaient changé de boulot ou tout simplement parce qu'elles ont déménagé. En vrai, c'est vertigineux. Isabelle, la directrice marketing de Francel Emerson, qui était la supérieure de Gabriel Fortin, a sans doute elle aussi échappé au pire.
On m'a demandé mon avis sur lui quand on l'a licencié. Donc oui, j'ai joué un rôle dans le sens que j'ai donné mon avis sur son comportement et ça a été pris en compte pour le licenciement, oui. Par contre, je ne sais pas si ça, et je pense qu'il a dû s'en douter, mais je ne sais pas s'il l'a su ou pas. Et puis, il n'y a pas uniquement mon avis qui a été pris en compte non plus. Mais oui, j'ai participé.
Entre-temps, Isabelle a quitté la France. Elle s'est installée aux États-Unis comme 2 autres responsables de l'entreprise. Et elle y vit depuis 15 ans.
La juge à qui j'ai parlé m'a informé qu'il avait gardé un petit cahier dans lequel il notait tout. Il y avait même il me mentionnait dans son cahier qu'il avait noté tout un tas de choses que je lui avais dites à l'époque. Il notait quand on avait des réunions, ce que je lui disais qui ne lui plaisait pas. Qu'il avait après suivi tout mon parcours professionnel et que tout ça s'était noté dans son bouquin. Ça, je trouve ça vraiment délirant parce que, un, il s'est fait licencier pour une bonne raison, mais qui n'avait rien d'extraordinaire. 2, il ne s'est pas fait licencier comme un malpropre. Et puis 3, vu la relation professionnelle qu'on a pu avoir, qui était tout à fait banale, de voir que je faisais partie de ses obsessions comme ça, c'est un peu effrayant quand même.
Rappelez-vous, dans le 3e épisode, je discutais avec Didier Bill, le DRH aux 1000 licenciements, et il expliquait que le dossier Fortin n'avait pas provoqué de remise en question de la profession, qu'il s'agissait d'un simple fait divers.
Est-ce que ce tragique fait divers a généré cette remise en question? Non, parce qu'in fine, ce n'est qu'un fait divers.
Je pense que c'est pas aussi tranché. Pendant les mois où j'ai enquêté, j'ai échangé avec d'autres responsables de ressources humaines. Certains, comme Isabelle, ont côtoyé Gabriel Fortin et se posent des questions.
J'ai jamais eu de problème avec aucun autre employé. J'ai licencié des gens directement et je suis d'ailleurs resté en contact avec pas mal de... Et on a gardé une relation amicale. Donc ça ne m'a pas fait changer mon comportement, mais ça fait quand même réfléchir au fait que on ne peut pas contrôler toujours la façon dont les gens prennent ça. Et puis que oui, il y a un risque forcément. Quand on licencie les gens, parce qu'il faut les licencier quand leur performance n'est pas bonne ou que leur comportement n'est pas bon, il faut le faire bien. Et même quand on le fait bien, il y a toujours des risques. Ce qui est surtout irréel, c'est de se dire que ce garçon-là avait beaucoup de rancœur, beaucoup de colère en lui, envers tout un tas de gens dans sa carrière professionnelle, et qu'il a réussi à garder tout ça. Personne ne s'est rendu compte à quel point ça l'impactait. C'est surtout ça. Ça le voit irréel et effrayant, mais en même temps, c'est juste un cas isolé. Je ne pense pas que la plupart des employés soutiennent et des rancœurs comme ça 15-17 ans après, de la même façon. Mais bon, il a réussi à naviguer tout ça sans que, à se faire à passer de job en job, de boîte en boîte, à accumuler de la colère, de la rancœur, et personne ne s'est jamais rendu compte de rien.
Isabelle ne sait pas grand-chose de la procédure, si ce n'est ce qui a fuité dans la presse. Elle n'est pas partie prenante de l'instruction, pourtant elle redoute déjà l'après.
Quand il sortira de prison, je pense qu'il sera toujours un danger. Quelqu'un qui garde ce genre de rancœur pendant si longtemps au point de tuer quelqu'un. Estelle, en plus, elle faisait partie des ressources humaines, elle était toute jeune, elle sortait à peine d'école, elle était toute gentille, c'était quelqu'un qui n'a jamais parlé brutalement, brusquement à aucun employé. Donc voilà, il avait de la rancœur en lui, mais mal placée quelque part. Et je pense que du coup, du procès, j'attends que, j'espère qu'ils prendront ça en compte, son état psychologique, et qu'il sera traité en fonction. Et puis deux, les gens qui restent, parce que Bertrand est toujours là, il est toujours en France. Il y a un certain nombre d'autres dirigeants qui sont toujours en France. J'espère que nous, on sera tous tenus au courant quand il sortira de prison. Je ne suis pas sûr que ça se fera, mais j'aimerais bien avoir un moyen de savoir s'il sort de prison, parce que je pense qu'il sera toujours un risque pour nous.
Un dernier trajet incohérent attire mon attention et celle des enquêteurs. Pourquoi Gabriel Fortin, après avoir assassiné Géraldine Caclin sur le site de Faune, en banlieue de Valence, choisit de revenir en plein centre-ville? C'est là qu'il est interpellé, à quelques mètres seulement, du tribunal de Valence. Et si c'était sa destination finale?
Il était 8h30 ce matin lorsqu'un homme a ouvert le feu dans une agence Pôle
emploi. À l'époque, le procureur de la République de Valence s'appelle Alex Perrin. C'est lui qui a ouvert l'enquête pour assassinat qui vise Gabriel Fortin. C'est lui qui a communiqué dès le 28 janvier.
Il a fait feu donc à une reprise, avec une détermination réelle. Enfin, le tir n'était pas un tir pour blesser. C'était clairement un tir pour tuer. Mais manifestement, c'est quelqu'un qui a une certaine aisance avec les armes, ça c'est sûr. Un
élément trouble les enquêteurs. Alex Perrin, on le retrouve aussi dans les notes de Gabriel Fortin. Notamment dans ses repérages. Dès décembre 2019, il évoque un passage au TGI, le tribunal de grande instance de Valence. Pareil en octobre 2020, quand il aurait peut-être pu passer à l'acte avant le couvre-feu. Fortin décrit le palais de justice et notamment la localisation du bureau du procureur, accessible par l'escalier côté droit, premier étage, couloir central.
L'escalier côté droit, premier étage, couloir central.
Je termine ce podcast à quelques jours du procès aux assises de Gabriel Fortin. Il sera jugé pour les assassinats d'Estelle Luce, Patricia Pasquion, Géraldine Caclin et la tentative d'assassinat de Bertrand Méchel. 3 semaines d'audience consacrées à la personnalité du tueur de DRH et aux faits qui lui sont reprochés. Avec une inconnue majeure. Gabriel Fortin, qui garde le silence depuis plus de 2 ans, va-t-il enfin parler ? Augustin Caclin, le fils de Géraldine Caclin, qui est partie civile au procès, n'y croit pas vraiment.
Je doute qu'il s'exprime. Il a eu 2 ans pour le faire et il n'a pas l'air parti pour changer cette ligne de conduite. Et peut-être que ça vaut mieux s'il s'expliquait et qu'il faisait un mea culpa, peut-être que ça pourrait avoir une utilité qu'il s'exprime. Mais si c'est pour tenter de justifier ce qu'il a fait ou de mentir ou de salir la mémoire des personnes à qui il a pu faire du mal, peut-être qu'il vaut mieux qu'il se taise. Je pense que ces actes sont tellement éloquents, les témoignages des personnes autour des proches des différentes victimes sont suffisamment éloquents, je pense, pour qu'on puisse difficilement dire que ces gens avaient mérité ce qui leur est arrivé. D'abord, ce que j'attends de, je l'espère et j'en doute pas, la condamnation de Gabriel Fortin, c'est qu'ils ne servent pas d'exemple et de modèle à certaines personnes. Que le fait qu'il soit reconnu coupable de ce qu'il a fait et que ce qu'il a fait soit condamné ne légitime pas ce qu'il a pu faire et à ma mère et à d'autres personnes. Et de manière plus personnelle, ça permettrait de, disons, fermer une porte pour permettre de passer à autre chose. On n'oubliera pas, on ne pourra jamais oublier, mais ça permettrait de dire cet épisode est fini, il faut maintenant qu'on construise le reste. Et c'est quelque chose qui a déjà commencé, mais ce serait un jalon important. J'ai pas grand-chose à dire à Gabriel Fortin. Mais si on me laisse l'occasion de dire ce que je veux au tribunal, ce sera sensiblement ce que je peux vous dire aujourd'hui. Essayer de montrer, aux côtés d'autres personnes qui seront là, la femme qui était ma mère et ne pas s'attacher uniquement à son rôle de DRH, ce pourquoi apparemment Gabriel Fortin aurait fait ce qu'il a fait.
Procédure. Assise. 6 jurés. Un président. 3 assesseurs. L'accusé. Parlez le moins possible.
Tueur de DRH est une série originale du podcast L'Affaire, produite par Paradiso Media. Une série écrite par Marion Dubreuil, produite par Sinamir avec Anna Finot et réalisée par Adrien Leblon, assisté de Quentin Casmerzac, Marek Panchaud, Marin Grisot et Hugo Guinon. Les producteurs délégués sont Lorenzo Benedetti, Louis Daboussi et Benoît Dunègre. Oriane Bettoni dirige la production, assistée de Caroline Allaire. Cyril Pocro est en charge du marketing et Gaël Job attaché de presse. Le visuel de la vignette a été imaginé par Maxime Renaud, Marie Soisic-Fraboulet s'est chargée des photos, Théo Albaric, Solal Dahan, Alix Duplessis d'Argentré, Sinamir et Clémence Olivier sont les voix additionnelles. Ludine Isol et Alix Duplessis d'Argentré ont assuré la partie juridique.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.